Vous savez que lorsque vous partagez les shiurim, en réalité, c'est comme si c'est vous qui les aviez donnés. Donc, vous avez une participation et une association à la diffusion de la Torah. C'est l'intérêt de notre peuple, c'est l'intérêt du monde entier. Pas parce que c'est moi qui donne les cours, tout simplement parce que lorsque la Torah se diffuse dans le monde, il y a beaucoup plus de lumière qui circule et une bénédiction dans tous les domaines. Donc, il est très, très important de prendre part active dans cette diffusion au maximum de personnes.
Partagez autour de
Donc, on va commencer.
Bravo.
OK. Alors, Erev Tov à tous. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons donc parler de la paracha de Vayetse. Avant cela, je voudrais faire une petite publicité pour mon ami David Antonelli pour la sortie de son livre « Retour d'une étincelle perdue ». Vous pouvez retrouver ce livre sur Internet. Vous tapez David Antonelli. Et la refouach lema pour Marcel Bat Chaviva et pour Lisa Bat Miriam. Be'ezrat Hashem, refouach lema min ha-shamayim.
Amen.
OK. Nous avons une règle qui a été donnée par le Ramban Nachmanide qui dit la chose suivante dans son explication sur Sefer Bereshit, dans la paracha de Bereshit, Ma'aseh Avot Siman Labanim. Les actions de nos pères sont un signe gravé dans l'ADN des enfants. Yaakov, c'est donc Israël, pas seulement au niveau de son nom et de son deuxième nom qui va s'appeler plus tard Israël aussi, mais lorsqu'on parle d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, on parle en réalité de la nation d'Israël tout entière qui sortira de ces personnages qui ne sont donc pas des personnages individuels, mais qui sont les porteurs du peuple d'Israël dans l'avenir. C'est pourquoi l'étude est très importante dans ce sens-là. Quand vous étudiez Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa et Zilpa et Bilha, en réalité, vous étudiez la notion de ce qui va sortir, non pas seulement le présent au niveau de ces personnages, aussi grands soient-ils, ils sont en réalité les porteurs de la Neshama du peuple d'Israël. Et c'est en cela que cela nous intéresse. J'entends souvent dans des cours une diffusion de la personnalité de Yaakov en tant que tel. C'est très important. Mais il faut savoir où se retrouve cette facette de personnalité au sein même de la nation d'Israël. Si ce n'est pas le cas, cela ne nous intéresse pas vraiment concernant l'homme en question, la femme en question. Sarah nous intéresse parce que tout ce que la Torah écrit concernant Sarah est une prophétie. Une prophétie sous-entend qu'elle touche toutes les générations et donc je dois retrouver en fait ce personnage à l'intérieur de mon être. Ce qui va se passer donc dans la vie privée, entre guillemets, de Yaakov, n'est qu'un support pour comprendre ce qui va se passer ultérieurement dans les gènes gravés par ces actions de Yaakov au degré de tout ce peuple d'Israël qui va sortir. Yaakov sort en exil dans notre paracha. Sa sortie en exil est donc la première sortie en exil du peuple d'Israël. C'est la première fois que le peuple d'Israël sortira en exil. Alors bien entendu, pour l'instant, c'est sous la forme d'un seul homme, c'est Yaakov. Mais n'oubliez pas ce qu'on vient de comprendre, que les actions de nos pères sont gravées dans l'ADN des enfants. Eh bien, cette sortie d'exil de Yaakov contient dans sa graine toutes les sorties d'exil de toutes les générations jusqu'à l'avènement messianique. On peut dire la même chose au niveau de son retour en terre d'Israël. Son retour, si on l'étudie convenablement, eh bien, il contient toutes les facettes intérieures et secrètes de la Géoula. Donc, c'est avec cette force-là que nous devons étudier la Torah. Et d'abord, il faut se poser la question, pourquoi sortir ? Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva vayelech Charana. Yaakov va sortir de Be'er Sheva et va aller à Haran. Pourquoi doit-il sortir de Be'er Sheva ? Ben, tout simplement parce que Yaakov, au premier degré de la lecture, a peur de son frère qui veut le tuer. Yaakov a pris les bénédictions de Esav et Esav maintenant revient, entre guillemets, à lui-même, à sa haine viscérale, et il veut poursuivre Yaakov et il jure de le tuer. Donc Yaakov, premier degré, doit se sauver. Je traduis ce que je viens de dire au niveau des générations. Il y aura des sorties en exil du peuple d'Israël parce que les nations du monde voudront dans l'avenir exterminer le peuple d'Israël. Vous comprenez, ce qui s'est passé chez Yaakov au niveau individuel va se passer au niveau de l'histoire. Donc, tous ceux qui vont conquérir la terre d'Israël voudront chasser le peuple d'Israël et faire sortir ce peuple en exil. Deux possibilités, ou bien on reste comme dans l'histoire de Hanouka et l'exil se fait à l'intérieur de la terre d'Israël, ou bien on quitte le pays pour un moment vraiment momentané, pour quelques instants qui peuvent durer quelques, malheureusement, milliers d'années, pour, en fin de compte, revenir, comme c'est le cas de Yaakov. La deuxième raison de cette sortie est plus profonde que la première. La première est pour éviter le mal. La deuxième est pour rechercher le bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement que Yaakov va sortir en exil pour faire un tri. Faire un tri des étincelles de lumière qui manquent dans le processus de la Géoula. La Géoula doit se faire avec des lumières, au moment où les lumières retrouvent leur ustensile correspondant, on appelle cela un tikkun. La notion de tikkun que vous employez sans cesse est en réalité une seule chose, une lumière et un contenant correspondant. Lorsqu'il y a lumière contenant, eh bien, c'est un tikkun. Lorsqu'il y a un neshama dans un corps, ça s'appelle un tikkun. Lorsqu'il y a de l'eau dans un verre, ça s'appelle un tikkun. Ça veut dire que chaque élément qui est censé recevoir quelque chose, tant qu'il n'a pas reçu cette chose-là, le contenant et le contenu ne sont pas ensemble, eh bien, il n'y a pas de tikkun, il y a un nituk. Nituk qui veut dire coupure, séparation. Donc, la correction du nituk est le tikkun. Quand je construis une synagogue, tant que personne n'y est rentré, il n'y a pas encore de tikkun. Dès que les personnes commencent à prier dans cette synagogue, c'est comme s'il y a eu maintenant accouplement, lumière, et ustensiles. L'homme et la femme, la même chose. Tant qu'il n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas aussi de tinok. C'est les mêmes racines, les mêmes lettres. Donc, en réalité, Yaakov va sortir de la terre d'Israël, mais la Torah ne parle pas de tout le degré de la terre. Elle va employer une terminologie, une sémantique bien précise. Elle va parler de Be'er Sheva. Alors, nous allons, bien entendu, Be'ezrat Hashem, nous référer à la deuxième version des choses, c'est-à-dire que Yaakov va sortir pour récupérer certaines étincelles qui manquent à la complétude de ce qu'on appelle le tikkun. Quand est-ce que le tikkun sera complet, qu'on appelle en hébreu gmar hatikkun, au moment où toutes les lumières vont rejoindre leurs ustensiles, leurs contenants. Et lorsque toutes les lumières correspondent aux ustensiles contenants et qu'il y a accouplement lumière-ustensile, c'est ce qu'on appelle Gmar Hatikun. La plus haute lumière aura le plus haut Kli. Par exemple, la lumière d'une sphère de Keter, de la couronne, devra avoir un ustensile correspondant, donc Keter. Alors ça, ce sont des sphirotes. Mais je vais vous parler d'une manière un petit peu plus claire. Lorsque chaque enfant d'Israël saura reconnaître la parcelle de terre qui correspond à sa nature. Déjà, lorsque les enfants d'Israël comprendront que leur place n'est ni à Paris, ni à New York, ni à Nice, ni à Antibes, mais sur la terre d'Israël, et au moment où ils reviendront sur la terre d'Israël, il y aura une deuxième sélection qui se fera avec le prophète Élie, Eliyahu Hanavi, qui va replacer les personnes à l'endroit qui correspond à leur nature, sur la terre d'Israël même. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura quelques déplacements de personnes par rapport à l'endroit qui correspond à leur propre nature. Ça aussi, ça fait partie d'un tikkun. Et donc, il faut prendre en compte toutes ces données. Tikkun égale, encore une fois, orot vekelim matimim. En hébreu, donc des lumières et des vases correspondants. On ne peut pas planter un arbre sur une terre qui ne correspond pas à sa nature. L'arbre va mourir. Une fleur va faner. Se faner si elle n'est pas plantée à l'endroit correspondant à sa nature. Le peuple d'Israël, Unetatim aladmatam, je les planterai, littéralement, c'est écrit, sur leur terre, c'est-à-dire sur la terre qui correspond à leur propre nature. Donc on n'a pas besoin d'être déraciné, chas v'shalom, et encore moins essayer de se trouver des morceaux de terre qui correspondent à de l'à peu près pour essayer de survivre. Il faut arrêter de survivre, il faut commencer à vivre. Donc Yaakov va aller récupérer les étincelles qui sont tombées en fait du monde de la sainteté. Comment est-ce que ces étincelles sont tombées? Ce n'est pas le but même de notre cours, parce que c'est déjà des éléments qui réfèrent à la Kabbalah, donc je ne veux pas vous embrouiller avec des notions trop lointaines, trop profondes, tout simplement pour vous dire que lors de la création du monde, il y a eu quelques éléments qui se sont échappés du monde de la sainteté, des frontières de la sainteté. Et après la faute du premier homme, il y a eu accélération de ces pertes. Et donc, beaucoup de lumières se trouvent loin de leur source. Le but de la sortie de Yaakov de Be'er Sheva est d'aller dans ces lieux lointains récupérer, reconnaître et récupérer ces étincelles perdues pour les ramener en terre d'Israël et justement reconstruire la couronne brisée. Il faut savoir que lorsque ces étincelles de lumière se trouvent dans leur exil, elles sont prisonnières. Elles sont prisonnières pour nourrir ces exils, c'est-à-dire que les forces négatives qui se trouvent à l'extérieur savent reconnaître ces étincelles de lumière et savent qu'il faut les garder, qu'il faut les attacher pour que ces étincelles, en réalité, nourrissent ces forces négatives en dehors de leur système. Je vais vous donner un exemple pour ne pas que ce soit trop virtuel. Quand quelqu'un a reçu une intelligence aiguë dans sa vie, eh bien, ou il utilise son intelligence pour dévoiler les lumières d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, ou bien il peut utiliser cette même intelligence pour voler. On est d'accord. S'il utilise cette intelligence pour voler, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a pris ses étincelles de lumière et il est allé nourrir des éléments étrangers à ce qu'il doit faire dans sa vie. Moralité, il aura nourri le mal et après il va falloir libérer toutes ces puissances qu'il a utilisées de ces prisons de négativité. Vous comprenez donc que nous recevons en fait des forces qui sont des valeurs absolues et c'est à nous d'y mettre les signes, plus ou moins. Si j'utilise les puissances que Dieu a implantées en moi pour faire du mal, ou bien si j'utilise les puissances que Dieu a implantées en moi pour faire le bien. Si j'utilise ces forces pour faire le mal, j'ai tout simplement mis un signe négatif à cette puissance qui est en valeur absolue. Eh bien, si j'ai fait des éléments positifs, j'ai mis un signe plus, tout simplement. Donc, le Yetzer Hara, c'est tout simplement mettre un plus ou un moins à ma valeur absolue. Alors, imaginez-vous que moi, Yoel, je sois en valeur absolue 8. Eh bien, je peux devenir un plus 8 ou bien, Chas Vechalila, un moins 8. C'est toujours la même puissance. Yaakov est donc sorti chercher tous ces éléments qui ont été utilisés, volés, violés et utilisés par les forces du contraire de la sainteté, ce qu'on appelle en hébreu Tzad Acher, Sitra Achra, en araméen. Et l'exil profite de ces forces-là, bien entendu. Un petit exemple, Yosef Hatzadik est une puissance extraordinaire. Eh bien, Paro, immédiatement, le vole et le met à son service. Donc, Yosef va servir l'Égypte comme personne n'a pu le faire. Et même quand il quitte ce monde, le pharaon va enterrer Yosef dans le Nil pour qu'il serve de batterie. Vous comprenez que Yosef dans le Nil, c'est comme un générateur de puissance. Donc, tant que Yosef est là-bas, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, eh bien, l'Égypte utilise ses énergies pour vivre. Au moment où on quitte l'Égypte avec toutes ses batteries, toutes ses piles électriques, eh bien, l'Égypte devient, disent les sages, comme un aquarium sans poisson. C'est-à-dire, on a vidé, en fait, l'énergie du pays en question. Vous comprenez pourquoi les pays, d'une manière inconsciente, ont peur de perdre leurs juifs. Au moment où les juifs quittent un pays, c'est comme si on enlevait à ce pays toute la puissance. Je vais vous dire quelque chose qui un petit peu fait mal, mais le Zohar le dit, je n'y peux rien. Lorsque le juif ne donne pas sa puissance à sa propre nation et qu'il donne sa puissance à une autre nation, par exemple lorsqu'un juif paye ses impôts dans un autre pays qui est le sien, il y a ici une forme de perte de semence, un gaspillage de la puissance juive et de son cerveau et de son savoir et de ses qualités et dans tous les domaines, ceci est vrai. Il faut donc dans le contact avec les valeurs de l'infini. Donc Yaakov va sortir de Be'er Sheva, il va sortir de cette graine qui est avant même le chiffre 7, il va sortir de la racine même de la vie. Et il va descendre dans le monde de l'action. Alors, chez l'être humain, ça peut se réaliser aussi. Notre Be'er Sheva, c'est la Neshama. Et le Haran, c'est le corps. Mais il faut quand même faire ce travail. On est obligé de faire descendre les valeurs qui se trouvent dans notre racine des sept, Be'er Sheva, dans notre Neshama, dans notre degré 8, pour nourrir justement les 7 degrés de notre propre système. Attention, il ne faut pas sortir en dehors de moi-même, sinon je me perds. Donc je dois faire en sorte que la Neshama de Yoel serve les 7 degrés de Yoel. Une fois que je suis dans le complet, alors je peux sortir un petit peu plus à l'extérieur et aller aider d'autres personnes que moi-même. Il y a donc un voyage de la Neshama vers le corps. La Neshama se trouve à Be'er Sheva, toujours, et le corps se trouve dans le Sheva, dans les 7. Le corps, c'est déjà le 7. Be'er Sheva, c'est avant le 7. Donc, il y a un mariage Neshama-corps. Et effectivement, c'est le but même de la Neshama, de faire passer toutes ces énergies au niveau du corps. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, le faire passer à l'extérieur. Mais, encore une fois, je répète, pour ne pas que ce soit mal compris, il y a des règles et des frontières. En dehors de la frontière qui correspond à cette lumière de l'âme, cette lumière, en fait, ne peut plus se dévoiler, car le corps de l'extérieur ne correspond plus. Vous comprenez comment ça marche? Donc, il y a ici une demande intérieure, intrinsèque, de faire très attention quelles sont les limites de la diffusion que je suis en train de faire. Alors, comment est-ce que ça se passe? D'abord, il faut savoir ce qu'il y a dans la source des 7, dans le degré ultime, pour après pouvoir descendre dans le 7. Parce que si je ne viens pas de la source des 7, qu'est-ce que je vais faire dans le 7? Je vais peut-être même me perdre dans le 7 de ce monde. C'est un petit peu compliqué ou c'est très clair? Ça va? Plus ou moins. Alors, je vais expliquer avec des mots un petit peu plus simples. Si je ne suis pas lié à ma propre source, qui s'appelle la source des 7, le Be'er Sheva, qui est mon âme, quand je vais sortir sans cette puissance de l'attachement de mon être à mon âme, je risque de me perdre à l'extérieur parce que je ne viens pas d'un endroit où j'ai touché la solidité, la stabilité, vous comprenez? Donc, quelqu'un qui veut sortir mais qui n'est pas stable, comment est-ce que vous voulez qu'il aide autrui? Il va tomber. Il va se perdre dans l'endroit où il veut aller, même si son idée c'est d'aller chercher des étincelles. Les étincelles vont lui dire « Viens mon petit vieux, on va te prendre avec nous, tu ne vas pas réussir à nous faire sortir d'ici, c'est nous qui allons t'avaler. » Et donc, le mal va encore gagner des étincelles de lumière. Moralité, il faut d'abord savoir ce que j'ai à l'intérieur de moi-même, dans ma partie la plus haute, la plus spirituelle, la plus profonde, la plus au niveau de l'âme, pour après pouvoir ressortir et agir dans le monde extérieur. C'est plus clair comme ça? Eh bien, les anges, c'est ce qu'ils font. Dans le rêve de Yaakov, on dit que les anges d'abord montent et après redescendent. Donc, il y a un sens très clair dans la Torah. Quel est le but? C'est de redescendre. Mais pour redescendre, il faut d'abord monter. Pourquoi faire monter? Bien, pour rencontrer ma véritable identité là-bas en haut. Si je ne monte pas assez, si je ne suis pas au plus profond de moi-même, comment est-ce que je vais pouvoir sortir? Qu'est-ce que je vais faire à l'extérieur? Je n'ai rien à apporter au monde extérieur. Donc, d'abord et avant tout, je dois monter pour rejoindre le monde intérieur de ma vie. Donc, les anges, en réalité, qui montent et qui descendent sur l'échelle de Yaakov, ce sont en réalité des forces qui sont en moi-même. C'est moi l'échelle de Yaakov, c'est toi, c'est elle. Vous avez tous une échelle de valeur sur laquelle vous grimpez pour aller monter, toucher vos points essentiels de la vie. Et de là-bas, vous pouvez redescendre pour amener ce que vous avez rencontré là-bas dans le monde d'ici. C'est clair? Donc en réalité, il y a deux degrés, deux plateformes. Une plateforme secrète, une plateforme dévoilée. Ce qu'on appelle, par exemple, concernant Jérusalem. Il y a la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas. Qu'est-ce que c'est que cette notion de Jérusalem d'en haut ? Mais tout simplement, c'est l'âme, la Neshama, de la Jérusalem d'en bas. Qu'est-ce que je dois faire dans la Jérusalem d'en bas ? Ce qui se trouve dans la Jérusalem d'en haut, mais si je ne suis pas monté dans la Jérusalem d'en haut, je ne sais pas ce qu'il faut faire dans la Jérusalem d'en bas. Vous comprenez ? Avant de descendre dans votre corps, qui est la Jérusalem d'en bas, qui est le chiffre 7, vous devez d'abord faire un stage dans votre chiffre 8. Donc les anges qui sont à l'intérieur de vous montent, font leur petit stage dans le chiffre 8 et après redescendent dans ce monde. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire ? J'essaye d'être le plus cohérent possible. Donc il y a ici comme un travail où on monte avec des paniers vides, on remplit de toutes les connaissances qu'il y a en haut, dans les idéaux les plus profonds de notre identité, et on redescend avec des paniers pleins de ces informations. Et une fois que je suis en bas, avec cette mémoire que j'ai gardée d'en haut, eh bien, je peux remplir le monde de tout ce qui se passe en haut. Même si les gens ne comprennent pas. Je vais leur dire, vous savez, je suis monté en haut et j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire les critères selon lesquels le monde d'en bas devrait vivre. Vous êtes en train de vous perdre parce que vous n'avez jamais touché votre 8. Donc vous êtes dans le 7. Vous êtes paumé dans le 7. Vous allez mourir par la nature. La nature va vous attacher et va vous faire tomber dans un trou qui n'a pas de fond. Alors que si d'abord vous montez vers la source qu'on appelle donc Be'er Sheva, après, vous pouvez redescendre. Vous comprenez donc que Yaakov, lui, a fait exactement ce travail. Il est d'abord monté à Be'er Sheva, et c'est de là-bas que la Torah nous raconte qu'il sort. Alors, avec des mots encore plus simples, Yaakov sort d'une stabilité extrême pour arriver dans un monde d'instabilité et de risque de perdre. OK ? Donc, en réalité, nous devons faire tous ce même travail. Avant de sortir pour aller récupérer certaines forces, certaines plumes, comme on dit en français, que vous avez perdues en route, il faut d'abord être solide. Si vous n'êtes pas solide, que vous ne venez pas de votre source première qui s'appelle Be'er Sheva, vous allez tomber Chas v'Shalom et perdre non seulement la mémoire, le souvenir de ce que vous êtes venu faire. Combien de gens descendent dans ce monde et oublient pourquoi ils sont là ? C'est exactement ça, on vient tous de Be'er Sheva. Be'er Sheva, c'est le lieu, le panier d'où provient notre Neshama. On est descendu dans ce monde, et si je vous pose la question, est-ce que tu sais ce que tu es venu faire ? Je vois immédiatement des sourires sur vos visages. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que vous avez oublié, parce que le monde de la matière vous a aseptisé. C'est le cas de le dire, c'est le chiffre 7. C'est-à-dire que le monde d'en bas vous a coincé dans un système naturel qui est comme une bague, en hébreu teva, tabat, et qui vous étouffe. Vous ne savez pas ce qui se passe en dehors. Vous êtes comme un ver dans une pomme. Toute la vie, il mange l'intérieur de la pomme, mais il est à l'intérieur, il ne sait même pas qu'il y a un monde en dehors de cette pomme. Un jour, il arrive à la couche, à la dernière couche, à la peau, et il perce la peau de la pomme, et d'un coup, il a envie de se suicider parce qu'il voit qu'il y a un champ avec des milliers de pommiers, et lui, il est paumé dans sa petite pomme. C'est exactement ce que les gens qui sont dans la pomme du 7 n'ont pas compris. n'ont pas compris qu'il faut être au-delà.
Allez, viens.
S'il vous plaît, fermez les micros parce qu'on entend tout ce qui se passe dans les maisons. Et c'est de là qu'a été pris, par exemple, le petit film dessin animé pour les enfants. Blanche-Neige et les sept nains. Ben, Blanche-Neige, c'est Be'er Sheva. C'est la blancheur, la hauteur, la profondeur, la beauté. Et les sept nains, ce sont les sept degrés de notre monde.
Les ingrédients ne sont pas prêts. Tu mesures les ingrédients.
Tu mesures les ingrédients.
Voilà. Excuse-moi, maintenant, on parce que les gens n'allument pas leur micro, sauf s'ils ont une question, Todaraba.
Donc, vous avez compris comment ça se passe. Et je peux vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples qui, en réalité, correspondent à des choses que vous avez vues dans votre vie. Et les gens qui ont fait ces films-là ont compris, en réalité, le décodage. Les sept degrés de ce monde sont des nains par rapport à la blancheur, à la candeur initiale. C'est ça le secret. Et si malheureusement cette blancheur tombe, elle meurt dans ce pommier, dans ces sept nains. Et il va falloir encore quelque chose pour la faire monter. Donc Yaakov va faire ce travail. Il va sortir du monde de la liberté absolue, de l'unité absolue, très solide. Et maintenant, il va descendre facilement, relativement facilement, dans le pays des sept, dans le degré des nains, pour apporter la lumière de ce degré très élevé duquel il vient. Rabotai, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une préparation de Yaakov pour le peuple d'Israël, pour ne pas que les exils dans lesquels nous étions soient trop difficiles. Eh bien, Yaakov est sorti de Be'er Sheva, il est sorti de la source. Mais, et ça c'est un grand mais, il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Et malheureusement, nous avons vu que pendant 2000 ans, beaucoup d'entre nous ont oublié l'essence, n'avaient même pas envie de rentrer, de revenir à la source des sept. Ils se trouvent bien au pays des nains. Parce que c'est plus facile de vivre comme un nain plutôt que comme Blanche-Neige, dans la blancheur, dans les idéaux les plus élémentaires, les plus élevés. C'est-à-dire que pour passer de la stabilité à l'instabilité, il faut d'abord venir d'un endroit stable. Si vous levez le pied en tant que danseur ou de combattant dans un sport de combat, vous ne pouvez pas lever une jambe si l'autre pied n'est pas stable sur la terre. Mais c'est la même chose. On ne peut pas faire un acte si on ne sort pas de la stabilité. Vous avez une double paracha qui peut vous dessiner ce que je suis en train de vous dire. Ça s'appelle Nitzavim Vayelech. Qu'est-ce que ça veut dire Nitzavim Vayelech? Ce n'est pas seulement l'ordre des parachiotes. Nitzav, ça veut dire stable. Vayelech, tu peux commencer à marcher. Si tu sors d'un degré de stabilité, alors tu peux commencer ta démarche et ta marche dans la vie. Mais si tu ne viens pas, ou si tu oublies l'endroit duquel tu es venu, tu as un problème. Tu as un problème très grave. Je peux dire en mon âme et conscience que lorsque, malheureusement, à un moment donné de ma vie, j'étais poussé, peu importe maintenant pourquoi, à sortir de ma terre, alors que je suis né aussi à Be'er Sheva. Eh bien, quand j'étais en exil, jamais, mais au grand jamais, j'ai oublié d'où je venais. Et j'avais une seule bulle dans ma tête, c'est d'y revenir. J'ai grandi dans une bulle de terre d'Israël avec un seul degré qui me poussait tout le temps comme un mouvement intérieur qui ne me laissait pas de repos. Repars, repars. Tu ne peux pas rester ici. Eh bien, si on faisait ça, on serait tous ici, Malheureusement, on s'est perdu en exil et on n'a pas compris. Vous comprenez donc ici qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort. Et la nouveauté, c'est qu'on ne quitte pas les sept, mais on va nourrir les sept pour qu'ils deviennent à leur tour des géants. Grâce à quoi je peux nourrir les sept? Grâce aux huit duquel je viens. Le peuple d'Israël vient de Be'er Sheva. Yaakov est sorti de Be'er Sheva. Yaakov, c'est nous. Nous sommes tous issus de ce point culminant qui s'appelle Be'er Sheva, de cette goutte d'âme supplémentaire. Et nous descendons dans ce monde, le monde de l'éparpillement, le monde de la séparation, le monde des milliards et des milliards de détails. C'est très facile de s'y perdre. Pour ne pas se perdre dans ce monde de détails, il faut sans cesse se rappeler d'où tu viens et sans cesse faire le travail de ces anges de Yaakov. Ou Malaché Elohim, Olim, Veyordim, Bo. C'est qui Bo? Les gens pensent que c'est sur l'échelle. D'ailleurs, tout le monde dessine des anges qui montent et qui descendent sur l'échelle. Mais en réalité, l'échelle, c'est toi. L'échelle, c'est moi. L'échelle, c'est Yaakov lui-même. Et c'est en lui que se trouvent les étapes de cette échelle, les degrés de l'échelle. Tout ceci, donc, pour être capable de sortir, de descendre, et de récupérer les étincelles qui m'appartiennent. Je n'ai pas le droit de laisser quoi que ce soit de mon âme à l'extérieur. Yaakov, rappelez-vous, dans l'histoire de Hanouka, d'ici deux semaines, est sorti de la terre d'Israël parce qu'il a oublié des petits pachim ktanim. Qu'est-ce que c'est pachim ktanim? Un homme multimilliardaire comme Yaakov à son époque, qui sort d'Eretz Israël pour aller récupérer, je ne sais pas moi, des petites fioles qu'il a oubliées. Tu n'as rien d'autre à faire dans la vie? Eh bien, en réalité, ces fioles représentent des éléments, des ustensiles oubliés ou pas encore triés qu'il allait rapatrier, qu'il fallait ramener à la source. Et c'est un enseignement très fort. On appelle cela en hébreu « lehotzi yakar mizolel ». Il faut entrer, pénétrer dans le ventre du mal pour reprendre ce qui m'appartient. Parce que le mal se nourrit de cette force-là. Et au moment où cet élément de lumière sort, le mal va mourir. Le mal n'a plus rien à faire. Kemetsuda she'en badagan. Kemetsula she'en badagin. Quand je sors tous les éléments de lumière, je laisse l'endroit vide de vie. Il n'y a plus de vie. Vaifga bamakom. Et lorsque Yaakov va sortir, la Torah nous dit, et nous avons fait à peu près un verset et demi. Ouais, on n'a rien fait encore, je n'ai même pas commencé le cours. C'est tellement énorme, mais ce n'est pas grave, on essaye d'avancer. Il y a marqué « Vaifga bamakom », il a touché l'endroit. Les Chachamim nous disent que la Tefila a dit non. Eh bien, l'un de ces noms, c'est « Pgi'a ». Donc, Vaifga Bamakom, traduction de nos sages, Yaakov a prié. Or, il est dit dans le texte qui bat Hashemesh, parce que le soleil s'était couché. De là tirent nos sages, ce qui en réalité coule de source, Yaakov a instauré la prière de la nuit, donc la prière de Arvit. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais Yaakov, étant donné qu'il vient d'un endroit très stable qu'on appelle Be'er Sheva, et qu'il est descendu dans un monde d'instabilité, il doit garder le lien. Comment est-ce que vous traduisez la notion de tefila? Non pas par une prière, mais par un lien. En hébreu, tefila ne veut pas dire prière, attention. Beaucoup de gens traduisent malheureusement du français, on a l'impression qu'on va prier, mais ça ne veut rien dire. La tefila vient de la racine ptil, qui veut dire une mèche. L'île pot, c'est attaché en hébreu. Donc tefila veut dire un attachement. Moralité, Yaakov est sorti et il a instauré immédiatement un point de contact pour ne jamais oublier d'où il vient. Et donc il a instauré la tefila de Arvit. Pourquoi pas la tefila de Shacharit ou de Mincha? Vous allez me dire, ouais, parce que le soleil s'est couché. Oui, mais Dieu aurait pu faire les choses autrement. Qu'il sorte le matin et qu'il arrive le matin, dans la matinée. Mais tout simplement pour faire en sorte que Yaakov nous prépare une prière spéciale qui s'appelle la prière de Arvit. Et qu'est-ce que c'est que cette prière de Arvit? Ben, c'est la capacité à garder encore le lien avec Dieu, même lorsque tu te trouves dans le pays des sept nains, même lorsque tu te trouves en bas dans le noir, dans l'oubli, même lorsque tu te trouves en bas dans un monde où tout le mélange, Arvit veut dire mélanger, mais Orav, Erev, c'est pas le soir, Erev ça vient du mot Irvuvia, ça veut dire que tu es dans un monde de mélange, tu ne comprends plus rien, tu ne sais même plus qui est contre qui. On ne sait même plus où est le bien, où est le mal. Chacun dit qu'il détient la vérité. Et toi, tu es paumé à l'intérieur de toute cette panique. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, relis-toi à Be'er Sheva. Relis-toi à Blanche-Neige. Relis-toi à la source. C'est incroyable parce que le terme Blanche-Neige rappelé dans la Kabbalah, ce qu'on appelle Talga, qui veut dire Sheleg Rivarte, la blanche. C'est-à-dire, c'est le degré de la blancheur initiale. Eh bien, pour ne pas te paumer, te perdre dans le monde de la petitesse, il faut que tu crées un lien, ce qu'on appelle la Tfila de Arvit. Est-ce que tu es capable de prier Dieu même quand il fait un petit peu noir dans ta vie? Est-ce que tu es capable de garder le lien avec la sainteté quand tu n'as pas véritablement de bonnes nouvelles en ce moment? Est-ce que tu ne donnes pas un grand coup de pied en disant « Ouais, j'en ai marre de tout ça, il n'y a rien de vrai. » C'est une difficulté. C'est un désespoir. Et malheureusement, certains de nos frères sont tombés dans le désespoir de l'exil. Et il se demande si ça vaut encore la peine de se battre. C'est trop tard, ça leur paraît trop difficile. Je ne peux plus faire d'efforts. C'est comme les gens qui vieillissent. Vous savez, à un moment donné, la personne abandonne. Et c'est là où elle commence à mourir. Elle se laisse, c'est fini. Elle n'a plus la force de se battre, ni plus rien. Je me laisse partir. Mais c'est la même chose. C'est chas v'shalom, c'est abdiquer. C'est laisser tomber, c'est ne pas avoir confiance qu'Akadosh Baruch Hu se trouve même dans ces moments de ta vie. Alors Yaakov est venu avec sa bonté pour nous préparer une possibilité de garder un lien même dans ces étapes de ta vie. Vous comprenez ce que ça veut dire instaurer la tefila de Arvit? Ce n'est pas seulement fabriquer une tefila en disant, voilà, tu vas commencer à dire Baruch Hu, après tu vas dire le schéma, après tu vas dire la Hamida. Ça va, on a compris. Ce n'est pas ça, Rabotai. C'est tout simplement savoir garder le contact avec l'Éternel, même quand il fait nuit dans ta vie. Comme quand tu vas allumer les veilleuses de Hanouka. Tu vas les allumer précisément parce qu'il commence à faire nuit. C'est au moment où il fait nuit dans ta vie que tu dois amener de la lumière. Et c'est ça la Torah. C'est ça la sainteté de la Torah. La Torah vient nous enseigner comment vivre dans le monde des sept nains. Car elle, la Torah, elle vient du chiffre 8. Vous savez comment on appelle le chiffre 8 dans la Torah, dans la Kabbalah? Soulam, l'échelle. Incroyable. C'est la même valeur numérique que Sinaï, le mont Sinaï duquel la Torah est descendue. On ne dit pas que Dieu a donné la Torah. On dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Et les sages nous disent que la Torah a été reçue d'un degré qui s'appelle Sinaï. Et ce degré qui s'appelle Sinaï, en réalité, c'est Be'er Sheva. C'est de là que la Torah vient. La Torah est descendue dans ce monde du même degré duquel Yaakov est sorti. Ça veut dire que la Torah et Israël, c'est une seule et même chose. Donc nous sommes dans ce degré, nous sommes liés à ce degré. Et Baruch HaShem, lorsque nous avons la chance de revenir sur notre terre, eh bien, on monte de ce degré des sept petits degrés pour arriver à atteindre la source des choses. Pour que la nature ne soit pas délaissée. C'est pourquoi nous redescendons à chaque fois. Rappelez-vous que le sens, c'est d'abord monter et redescendre. C'est-à-dire que le but final, c'est d'amener les éléments que tu as goûtés là-bas en haut, ici-bas. Et si tu as l'impression que la Torah, c'est de la spiritualité, malheureusement, comme beaucoup de gens ont l'habitude d'étudier, ils ont l'impression que la Torah, c'est de la spiritualité, mais il y a un grand problème. La Torah, ce n'est pas de la spiritualité. Akadosh Baruch Hu n'est pas spirituel. Ça ne veut rien dire. Vous êtes en train de donner des définitions à En Sof Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'est pas plus dans l'esprit que dans la matière. Il n'a pas plus créé la Neshama que le corps. C'est le créateur des deux. Et si toi, tu négliges ton corps parce que tu es devenu spirituel, eh bien, tu as tout faux. Tu n'as rien compris. C'est pourquoi, d'ailleurs, certains d'entre nous ont transformé la Torah en religion. Parce que quand tu es religieux, tu peux faire ça n'importe où dans le monde. Tu peux être religieux à Manchester. Mais ce n'est pas le but d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous dit de sanctifier la matière. Et c'est ici qu'en réalité, toute la paracha vient et décide pour nous l'avenir, en fait, du peuple d'Israël. Encore une fois, et je résume parce qu'il nous reste plus que 2 minutes, la Torah vient nous enseigner sous forme de code. Vous avez une émission à décoder, c'est tout. Chaque paracha de la semaine, c'est une émission à décoder. C'est le canal plus. Et si tu n'as pas le décodeur, eh bien tu vas lire la Torah comme tu vois un film au premier degré, tu ne vas rien voir. En réalité, tu vas voir le... C'est tout, c'est exactement ça. Le décodeur, c'est en réalité les sages d'Israël qui vont faire le travail énorme de nous mâcher la Torah et de nous l'apporter au degré humain, palpable, compréhensible. C'est ce degré-là que nous devons étudier lorsqu'on étudie la Torah. La Torah est la lumière divine, c'est la volonté divine qui descend sur terre. Tout ce système de sortir, c'est la sortie en exil, pour récupérer des étincelles. Avec ces étincelles-là, on va revenir sur la terre d'Israël et on va fonder la nation. N'oublie pas que ces étincelles, c'est Rachel et Léa, qui elles aussi représentent les deux mondes. Pourquoi deux femmes? Comme je vous l'ai expliqué, il y en a une qui se trouve chez les sept nains et l'autre qui se trouve dans le chiffre 8. Eh bien, Léa, c'est le monde d'en haut, c'est le chiffre 8. Et Rachel, c'est la même que Léa en bas pour faire le travail et apporter la vie chez les sept nains. Yaakov, qui est au milieu entre ces deux femmes, va épouser les deux pour être lui-même l'échelle qui fait monter et descendre sans cesse les valeurs de l'infini. En prenant le tétragramme, la lettre Yud, c'est en réalité les valeurs de l'infini. Et après, nous avons trois lettres. Deux lettres féminines qui sont les mêmes. He, He. Léa et Rachel. Et une lettre au milieu qui est la lettre Vav. Yaakov. Yaakov va épouser Léa pour amener les valeurs d'en haut vers Rachel en bas. Ça, c'est le secret en réalité de toute cette construction dans la paracha de Vayetse. Merci pour votre assiduité. Merci pour le nombre qui va en augmentant. Et tout ce que je vous dis, ce n'est pas pour attaquer. C'est tout simplement pour comprendre que nous avons une essence et que nous devons prendre la décision de commencer à comprendre que notre terre est ici et qu'il faut un jour ou l'autre se réveiller de ce grand rêve. Merci.
C'est ça, c'est pas bon.
Oda Rabba.
Magnifique, merci
beaucoup. Oda Rabba. Je vous rappelle, vous pouvez poser vos questions au Rav Yoel sur
Chakor. Mamash. Toda Rabba. Toda.
Toda Rabba Yoel, de la part de Gabriel et Yonit.
Toda, Neshamot Yekarot, Animit Gagia Elechem. Toda Rabba.